Bonsoir à chacun.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans un premier passage, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 37. Il s'agit d'un petit verset parmi le grand enseignement de Jésus. Vous savez, ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Est-ce que vous avez déjà lu en entier le serment sur la montagne? Qui a déjà lu ce serment sur la montagne en entier? C'est chapitre 5, 6 et 7. Qui a déjà tout compris sur le serment sur la montagne? Je crois qu'il y a quelque chose de chaque verset qui est donné par Jésus, de chaque enseignement, il y a quelque chose de profond à en tirer. Et je voudrais simplement m'attarder sur quelques versets. Matthieu 5, verset, je vous ai dit combien? Verset 37. Mais on peut lire, pour bien comprendre, verset 33. Il est dit: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Un deuxième passage, ça sera dans Jacques, chapitre 5 et le verset 12. Ce qui est simplement une répétition de ce qu'on vient de lire là. On va le voir ensemble. Jacques, chapitre 5, verset 12. Regardez ce qu'il est dit. « Avant toute chose, mes frères, avant toute chose, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Amen. Est-ce que ce n'est pas une parole tellement simple? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et malheureusement, on est dans un monde où les gens hésitent à dire oui ou hésitent à dire non, où ils ne savent pas quoi prendre comme décision, donc ils disent oui et non à la fois. On entend souvent les gens dire toutes sortes de choses. Et la première pensée qui m'est venue, c'est que je me souviens quand j'étais enfant, souvent j'entendais mes amis dire, quand ils voulaient affirmer quelque chose, ils disaient « je te le jure sur la tête de mon père ou de ma mère ». Et c'est vrai que la parole nous invite à ne pas faire quelque chose comme ça, mais que notre oui soit oui, que notre non soit non. C'est tellement simple que quand on dit oui, on dise vraiment oui. Quand on dit non, on dise vraiment non. Quand on ne cherche pas des chemins détournés, qu'on n'ait pas des cœurs tortueux, mais qu'on parle avec vérité. Parce que quand on est dans le oui et le non à la fois, on est en danger tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y avait cet exemple, j'ai trouvé cette anecdote sur le président, un ex-président des États-Unis, Ronald Reagan. Quand il était enfant, il avait une tante qu'il avait amenée chez le cordonnier. À l'époque, il y avait des cordonniers. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on ne sait plus ce que c'est. C'était ceux qui faisaient les chaussures. Vous avez connu ça, monsieur et madame Delabre? Oui, nous, on n'a pas connu ça. Nous, on va au magasin, on achète les chaussures. Mais à l'époque, il y avait les cordonniers qui faisaient ça sur mesure, les chaussures. Et le cordonnier, il voit le jeune homme arriver, le petit garçon, et lui dit: alors, pour tes chaussures que je vais te faire, est-ce que tu veux les bouts carrés ou les bouts ronds? Et le petit garçon, Ronald, il était là, il ne savait pas quoi choisir, il ne savait pas quel était le mieux, il ne savait pas quel était le plus esthétique. Alors le cordonnier le voit là pensif, il ne savait pas quelle décision prendre, il lui dit: bon, mais je te laisse quelques jours pour réfléchir, puis tu reviens me voir. Puis au bout de quelques jours, le cordonnier voit le petit garçon dans la rue, il lui dit: alors, est-ce que tu as décidé si tu veux les chaussures à bouts ronds ou à bouts carrés? Et Ronald est toujours là, il ne sait pas quoi choisir, il est toujours dans ses pensées. Alors le cordonnier lui dit: bon, ben, dans 2 jours tu viens à la maison, et tu viens à mon magasin et tu verras. Et puis 2 jours après, le petit garçon il se présente au magasin, et le cordonnier il avait fait simplement une chaussure à bout rond, une chaussure à bout carré. Et puis il a dit: cela t'apprendra à ne jamais les autres prendre les décisions à ta place. Et des fois quand on est dans le oui, et quand on est dans le non à la fois, quand on est hésitant, quand on est indécis, ben c'est d'autres personnes qui prennent la décision à notre place. Et je ne sais pas si par rapport aux choses spirituelles, vous savez comment ça marche. Par rapport aux choses de la terre, à la limite, que les autres personnes prennent la décision à notre place, ce n'est pas gênant. Mais par rapport aux choses spirituelles, vous savez que c'est combien c'est embêtant, combien c'est même dangereux que d'autres prennent la décision à notre place, par rapport à notre éternité. Parce que si ce n'est pas nous qui décidons, si ce n'est pas nous qui choisissons d'aller au paradis, si ce n'est pas nous qui faisons ce qu'il faut, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ça sera soit le monde. Mais la Bible nous dit que le monde, il court à sa perte. Le monde va être un jour détruit et va être changé par un nouveau monde que le Seigneur Jésus va créer pour tous ceux qui auront accepté de placer leur foi en lui. Qui c'est qui va choisir à notre place sinon ? Le diable ? Est-ce que c'est intéressant que le diable choisisse à notre place notre avenir ? La Bible nous dit qu'il est venu pour égorger, détruire et voler. Voilà le programme que le diable il a pour nous. Il veut nous voler la paix de Dieu, il veut nous voler la vie éternelle, il veut nous enlever de la présence de Dieu. Il a mis le péché dans le monde et il a tenté les hommes pour qu'ils pêchent afin d'être séparés de Dieu. Voilà ce que veut le diable. Est-ce que vous voulez qu'il prenne la décision à votre place ? Est-ce que c'est Dieu qui va prendre la décision à votre place ? La Bible nous dit que Dieu nous aime trop pour choisir, pour nous forcer. Par contre, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Mais par contre, il nous laisse toujours le choix. Dieu ne nous forcera jamais. C'est à nous de dire oui ou de dire non d'ailleurs. Mais c'est à nous de le faire. Et l'indécision nous amène à cette réalité que quelqu'un, à un moment donné, va prendre la décision à notre place. Et ça peut être la mauvaise personne. Voilà pourquoi c'est une position dangereuse. Je pensais, il y en a qui ont déjà pris l'avion. Personne n'a pris l'avion ? Si, ah bon. Imaginez que quand vous prenez l'avion, vous arrivez, vous parlez avec le pilote juste avant de prendre l'avion et vous commencez à discuter. Alors, comment ça va ? Est-ce que vous êtes en forme ? Le pilote, il vous dit, je ne sais pas trop, je ne sais pas si ça va ou si ça ne va pas. Puis vous commencez à lui dire, mais ça fait longtemps que vous pilotez ? Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas. Vous êtes sûr que vous allez savoir piloter l'avion ? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez monter dans l'avion ? Moi, je ne monte pas dans un avion comme ça, avec un pilote comme ça, du moins. Imaginez un docteur qui doit vous opérer parce que vous avez un problème à la jambe. Ils font les examens pour voir s'il y a l'opération ou pas. Et puis, vous lui demandez, alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je veux voir un autre docteur. Je veux que quelqu'un me dise que c'est, oui, il faut opérer ou non, il ne faut pas opérer. Mais je veux une réponse. L'indécision, c'est quelque chose de terrible. Et quand ça concerne les choses spirituelles, c'est encore plus terrible. Nous avons besoin d'être dans un oui ou dans un non. Regardez ce jeune homme qui était indécis. Actes chapitre 20, verset 9. Un jeune homme qui écoutait la parole de Dieu. Et malheureusement, ce soir-là, malheureusement pour lui, la parole de Dieu, ça prenait du temps, ça a pris beaucoup de temps pour les autres qui étaient au Seigneur et qui se réjouissaient, qui étaient encouragés, ils étaient bénis, ils ne voyaient pas le temps passer, mais lui, il voyait la montre tourner, les minutes passer doucement, et à un moment donné, il s'est laissé emporter. Actes chapitre 20, verset 8, « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit. » Profondément, pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, qu'est-ce qui lui arrive ? Il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Un jeune homme qui était assis, à moitié à la réunion et à moitié en train de regarder ce qui se passait dehors. Il était dans une espèce d'indécision spirituelle. Le résultat, c'est qu'il s'est endormi et son sommeil a fait qu'il est tombé et qu'il est tombé mort. Mais par la grâce de Dieu, au verset 10, Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Amen. » Ce jeune homme a été ressuscité tout simplement. Quelque chose de fabuleux qui s'est passé, parce que quand nous sommes dans la mort spirituelle, le Seigneur est capable de nous apporter sa vie. Il faut simplement qu'il y ait la foi dans le cœur. Mais combien c'est dangereux l'indécision ? Combien c'est quelque chose de dangereux ? Et vous allez me dire ce soir, mais moi, je ne suis pas indécis. Moi, j'ai déjà dit oui au Seigneur. Moi, j'ai déjà pris position pour le Seigneur. Je veux bien vous croire. Vous allez me dire, moi, je vais à l'église tous les dimanches. Moi, je lis ma Bible tous les jours. Moi, je prie le Seigneur tous les jours. Je veux bien vous croire. Mais la Bible nous encourage à ne pas seulement écouter les paroles des personnes, mais à regarder ce que disent nos vies. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, une parabole de Jésus, toute simple. Quelques versets, 3 ou 4 versets, mais qui nous montrent que ce que nous disons par nos actes parle beaucoup plus que ce que nous pouvons dire par nos bouches. Et des fois, on est là, on dit « Oui, je crois au Seigneur, oui, j'ai la foi, oui, je vis quelque chose avec Dieu. » Et puis dans nos actes, la semaine, quand on est dans le travail, quand on est dans le monde, on agit comme les gens du monde. Il n'y a aucune différence, il n'y a rien qui nous démarque. Et où est notre foi à ce moment-là? On peut dire oui avec notre bouche, mais notre parole, nos actes plutôt disent tout le contraire. Matthieu chapitre 21, verset 28, « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Vous avez vu ces deux fils qui sont là ? Le premier, il entend la parole, l'ordre, va travailler, et il dit, « Non, je ne veux pas. » Et puis, à un moment donné, il change d'avis. Il est même dit qu'il s'est repenti parce qu'il avait dit non à la parole du Père. Et il a commencé à y aller. Ces actes de ce jeune garçon en parlaient beaucoup plus et ont dit un oui éclatant à l'ordre du Père. Tandis que l'autre, il a dit oui, oh Seigneur, mon Père, je veux faire ta volonté. Quelque chose de magnifique. Peut-être qu'il a dit avec éloquence, peut-être qu'il a dit avec ferveur. Mais quand il a s'agit de se mettre au travail, il n'a pas fait. Est-ce que des fois on n'est pas comme ça? Vous voyez qu'il y a ce que nous pouvons vivre, ce que nous avons dans le cœur se reflète par ce que nous faisons jour après jour. Et bien sûr, ce n'est pas question de faire les choses de manière machinale, de manière mécanique, c'est une question de cœur. Est-ce que nous obéissons au Seigneur parce que nous avons compris que le Seigneur nous a donné sa volonté? Aujourd'hui, nous connaissons la volonté du Père. Est-ce que vous savez que nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour chacune de nos vies? C'est très simple. Il faut lire la parole de Dieu et croire qu'elle nous vient du ciel. Croire que c'est une parole qui peut apporter la vie. Croire que c'est une parole qui peut changer les choses. Croire que c'est une parole qui peut nous transformer et nous amener dans l'obéissance du Seigneur. Imaginez un instant. Moi, je suis papa, j'ai deux garçons, mais imaginez un papa qui ne dit jamais oui ou jamais non à ses enfants. Vous qui avez des enfants, pas encore, hein, ça viendra. Jonathan, est-ce que tu dis oui ou non à ta fille? Tu dis souvent non, bon, on est pareil. Souvent, quand on a les enfants qui sont jeunes, on est obligé de dire non. Et imaginez, papa, est-ce que je peux mettre les doigts dans la prise? Imaginez le papa qui dit ni oui ni non. Qu'est-ce qui va se passer? Un accident? Papa, est-ce que je peux traverser la route en courant? Alors souvent, bien sûr, ils ne nous demandent pas avant. Ils le font. Et on est obligé de non, tu ne dois pas faire ça parce que c'est dangereux. Mais il faut qu'on dise oui ou non. Et on a besoin de même, de manière spirituelle, d'entendre ce que Dieu nous dit quand il nous dit oui ou quand il nous dit non. On a besoin d'entendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a un verset dans Amos, je le lis pour vous, un verset très simple qui dit « Haïssez le mal et aimez le bien ». Tellement simple. D'ailleurs, un autre verset nous dit « La crainte de Dieu ». Souvent, on ne sait pas ce que c'est la crainte de Dieu, le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du mal, la haine de ce qui est mauvais pour nous et l'amour de ce qui est bon aussi. Et ce qui est mal, il faut le dire non. Il y a des choses auxquelles il faut dire non dans notre vie. Il y a des choses auxquelles il faut dire oui. C'est ce qu'on va voir maintenant, plusieurs exemples des personnes qui sont retrouvées face au Seigneur ou face à des croyants et qui ont dit non ou qui ont dit oui. Et on va voir les situations qui se sont déroulées. Qu'est-ce que ça a résulté pour eux? Regardez la première. Luc, chapitre 16, on la connaît. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, vous savez. Il se retrouve, cet homme riche qui a mené une joyeuse et brillante vie sur la terre, dans l'opulence, dans l'abondance de biens, il se retrouve dans le lieu de tourment. Et là, qu'il se retrouve dans le lieu de tourment, il est en train de parler avec Abraham, qui est lui, Abraham, dans le lieu du paradis. Et alors, il est dit au verset 30, au verset 29, d'Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, parce que cet homme voulait qu'il envoie quelqu'un qui soit ressuscité des morts. » Regardez ce qu'il dit cet homme. « Non, père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, vers mes frères, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Cet homme qui est dans le lieu de tourment, il est en train de dire non à Abraham. Abraham représente, c'est le père des croyants, il représente la foi. Et cet homme qui, toute sa vie, il a dit non à la foi, on se rend compte qu'il est dans le lieu de tourment. Et il y a une chose à laquelle on ne doit pas dire non, c'est à la foi. Si on ne veut pas se retrouver dans le lieu de tourment, c'est ce qui est dit dans ce passage. Mais nous devons dire oui à la foi. Nous devons dire non à l'incrédulité, non à tout ce qui peut nous empêcher de bénéficier des promesses, non à ces raisonnements qui nous disent que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons dire oui, Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Je crois que ta parole peut m'affranchir. Je crois que ta parole peut me guérir. Je crois que ta parole peut me délivrer ce soir. Je crois que par une parole de toi, je peux avoir mon être transformé. Oui, Seigneur, je veux me placer ma foi en toi. Jean chapitre 8, verset 7. Vous savez, c'est quand la femme pécheresse se retrouve, la femme adultère se retrouve aux pieds de Jésus et que les pharisiens sont là prêts à lui lancer la pierre. Jésus, il dit cette parole, Jean chapitre 8, verset 7. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme a dit non à Jésus, mais elle a dit non dans de bonnes circonstances. C'est-à-dire qu'elle a dit, Jésus lui dit, « Personne ne t'a condamné. » Et elle a dit non. Elle a dit non à la condamnation. Elle a dit non, je n'ai pas été condamné par les hommes. Ça nous parle déjà de cette leçon que les hommes, aucun homme sur la terre ne peut nous condamner, ne peut nous condamner ou nous justifier par rapport à la vie après la mort. Il n'y a que Jésus-Christ, parce que tous les hommes de la planète, ils sont tous pécheurs, tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que Jésus, ça a été dit dans les chants, il n'y a que Jésus qui a été sans péché et qui peut nous apporter ce pardon, qui peut nous apporter ce pardon qui va nous empêcher d'être condamnés, mais qui va nous justifier devant Dieu. Il n'y a que Jésus. Est-ce que ce soir nous sommes là en disant non ? À la condamnation. Je ne veux pas rentrer dans la condamnation. La Bible nous dit encore une fois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. La Bible est claire. Comme un papa qui dit non à son enfant, Dieu nous dit de dire non à la condamnation. Et Dieu nous dit de dire oui à son pardon. Est-ce que ce soir, quelqu'un veut dire dans son cœur, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas rester sous cette condamnation qui pèse parce que le péché est une chose telle que ça entraîne la condamnation des hommes, ça sépare les hommes de Dieu et ça entraîne la condamnation. Mais Seigneur, je crois à ton pardon. Je crois que comme cette femme a été pardonnée, je peux être moi-même pardonné simplement en m'humiliant devant lui. Un autre passage encore, vous savez quand c'est Jésus qui est en train de laver les pieds des disciples, Jean chapitre 13, quelques chapitres plus loin, Jean chapitre 13, Jésus commence à laver les pieds des disciples et puis il arrive à Simon et au verset 8, Jean 13, 8, Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. » Pierre qui est là, qui dit à Jésus « Non !» Tu ne me laveras pas les pieds. Imaginez la scène un instant. Imaginez que ce soit votre patron qui se mette à genoux devant vous et qui soit en train de vous laver les pieds. À l'époque, c'était une marque de respect. C'était surtout le serviteur qui faisait ça. Et là, c'est le maître, c'est celui qui le rabbi, c'est celui qui enseignait, c'est celui qui faisait les miracles, qui se met à genoux devant son disciple et qui lave les pieds. C'était quand même quelque chose d'interloquant, et je crois que Pierre a réagi comme nous tous on aurait réagi, ça nous aurait un peu indigné, mais non, Seigneur, c'est toi qui mérites l'honneur, tu n'as pas à faire ça. Et quand Jésus lui explique, Pierre il change totalement, c'est plus un grand non, c'est un grand oui. Oui, oui, Seigneur, lave-moi tout entier même s'il faut. Mais la question pour nous ce soir, elle est beaucoup plus profonde que ça, plus que de se laver les pieds. C'est, est-ce que notre cœur est lavé? Est-ce que notre cœur qui est sale, sali par le péché, noirci par le péché, la Bible nous dit c'est comme c'est du cramoisi dans notre cœur, s'il est de cette manière, est-ce que nous avons laissé le sang de Jésus nous purifier, nous laver? Ça, c'est à chacun d'y répondre. Et ce n'est pas parce que je dis le sang de Jésus m'a lavé que ça a été vraiment fait. Mais si j'ai reconnu que le sacrifice de Jésus, la croix, c'était pour moi. Souvent, on lit la parole, mais on ne la lit pas pour nous. On la lit de manière générale, de manière intellectuelle. Est-ce que nous pouvons dire, oui, la croix, c'était pour moi. Le sang de Jésus qui a coulé de ses mains, c'était pour moi. C'était pour que mon cœur qui était sali par le péché soit justifié, lavé, purifié. Ce soir, nous avons besoin de dire non à l'impureté, non au péché, non à tout ce qui nous sépare de Dieu. Et de dire oui, Seigneur, viens laver mon cœur, fais ton œuvre en moi. Non, non au péché. Je voudrais finir avec ce simple passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. On a parlé de beaucoup de personnes qui ont dit non, mais je voudrais finir avec deux personnes même qui ont dit oui à Jésus. Matthieu, chapitre 9, verset 27. C'est juste après que Jésus ait ressuscité la fille de Jaïrus. Il est dit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Voilà la question que Jésus a posé à ces personnes, à ces aveugles. Et ils ont dit, par la foi, ils ont dit, oui Seigneur, nous croyons. Nous avons entendu parler de toi. Nous avons tellement de témoignages de personnes qui ont été bénies. Nous avons peut-être assisté, du moins ils étaient aveugles, nous avons assisté d'un point de vue auditif à tout ce qui s'est passé. Seigneur, nous croyons que tu es capable de nous guérir. Qui ce soir peut dire oui à Jésus de cette manière? Oui, je crois à la puissance de ta parole. Je crois à la puissance de ce que tu es capable d'accomplir. Je crois que rien dans ce monde n'est impossible à Dieu. Je crois qu'il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour Dieu. Je crois qu'il n'y a aucune maladie qui est trop difficile pour que Dieu ne puisse guérir. Je crois qu'il n'y a aucune situation compliquée relationnelle que Dieu n'est capable de restaurer. Seigneur, oui, je veux croire en toi. Oui, je veux placer ma foi en toi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qui ce soir peut dire oui, Seigneur? C'est en toi que je veux placer ma foi. On se recueille un instant, on va prier le Seigneur. Je ne voudrais pas faire d'appel ce soir, parce que je crois que c'est quelque chose, une décision qui se prend dans l'intérieur de notre cœur. Au plus profond de notre être, nous devons dire oui au Seigneur. Il ne s'agit pas de faire seulement des actes, il s'agit surtout de prendre une décision qui va déterminer la suite. Ce fils qui a dit non, qui a refusé, qui a vécu sa vie peut-être, c'est l'image de ces personnes, de ces prostituées, de ces personnes qui ont commencé à vivre une vie sans le Seigneur et qui à un moment donné, alors qu'ils ont entendu la parole, ils ont réagi et ils ont dit finalement oui. Mais avant de dire oui, ils se sont repentis d'avoir dit non un jour. Qui ce soir peut dire oui Seigneur, je me repens. Je me repens de ces œuvres mauvaises que j'ai faites. Je me rends compte que le péché m'amène à la condamnation éternelle. Je me rends compte, Seigneur, que je suis sous la colère de Dieu. Je mérite le châtiment. Je mérite l'enfer, Seigneur. Mais tu as envoyé Jésus-Christ pour que mon cœur puisse être lavé. Qui veut ce soir dire au Seigneur oui? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Dieu de l'univers. Je crois que tu es celui qui peut être mon sauveur et mon Seigneur. Qui ce soir peut dire oui dans son cœur? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce soir, le Seigneur nous demande de choisir. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez ce soir. Ne restez pas dans l'indécision. Ce soir, vous pouvez partir avec une assurance, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Le Seigneur n'est pas celui qui va nous forcer. Il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. J'ai choisi la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Notre Dieu ne forcera jamais personne. Par contre, il nous conseillera, parce qu'il nous aime, de prendre le bon chemin. Qui ce soir veut choisir la vie éternelle ?